Amen, gloire à Dieu. Alors là, normalement, vous êtes censé répondre Amen si vous êtes d'accord, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Gloire à Dieu. Ah, c'est déjà un peu mieux quand même. Je trouve que, j'ai déjà dit, mais il y a des habitudes qui se perdent. Moi, ça ne me gêne pas quand on acclame le Seigneur, qu'on l'applaudit. Je pense que c'est biblique et personnellement, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Mais je suis un peu plus embêté quand on a du mal à dire Alléluia, Amen, gloire à Dieu, parce que je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Alors, quand vous êtes d'accord, vous avez le droit de dire Amen. Je me réjouis, je vous salue chacun en particulier. Je me réjouis encore ce matin d'être là. Je ne connais pas tout le monde, mais je crois que si on est là ce matin, c'est que le Seigneur a pour chacun en particulier une parole, un encouragement, quelque chose qui va toucher le cœur, qu'on le connaisse depuis des années, qu'on soit en recherche, qu'on découvre les choses de la foi. Je crois qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Et vraiment, ma prière, c'est que chacun ce matin puisse être au bénéfice de son amour, puisse recevoir, même si on ne comprend parfois pas tout, mais qu'on puisse se laisser toucher, que nos cœurs soient touchés par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Parfois, il y a des témoignages de gens qui disent « Je suis venu dans une église évangélique, j'ai rien compris, mais mon cœur a été touché, je me suis mis à pleurer, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. » Alors peut-être que vous ne comprendrez pas grand-chose ce matin, j'en suis désolé, je vais essayer de faire en sorte d'être le plus simple possible, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ce ne soient pas des paroles d'un homme, mais les paroles du Seigneur, du Saint-Esprit, qu'il puisse les déposer dans notre cœur. Amen. À la lecture des évangiles, on pourrait faire plein de classifications. Moi, j'en ai fait une. Je trouve qu'il y a trois grandes catégories de personnes dans les évangiles. Il y a les pêcheurs au sens des païens, des publicains, les gens de mauvaise vie. Hein, on en voit des situations de prostitution, de gens vraiment de mauvaise vie. Il y a les disciples de Jésus, et on voit au fil des évangiles, il en choisit 12, et puis ça s'agrandit au fur et à mesure de son ministère. Et puis il y a une troisième catégorie, qui sont les religieux. Moi je suis surpris encore récemment, j'étais surpris de voir l'importance dans les évangiles du nombre de récits où il est question des scribes et des pharisiens. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas fait de statistiques, mais prenez les quatre évangiles et essayez de relever chaque fois Jésus s'adresser aux scribes et aux pharisiens. Les pharisiens vinrent voir Jésus, et ainsi de suite. Et quand on y attache un peu d'attention, je suis étonné de voir la place que ça prend. Alors je me suis dit, pourquoi la parole de Dieu contient-elle autant de récits de gens religieux? Tout compte fait, ça ne nous concerne pas, puisque nous, on est enfants de Dieu, on est nés de nouveau, donc tout ça, c'est pour les autres, certainement. Non, vous l'aurez bien compris, je pense que si le Seigneur y attache autant d'importance, s'il a prévu que ce soit dans sa parole et dans les évangiles, c'est qu'on est certainement tous, à un moment plus ou moins, concernés. Et je pense qu'il y a deux pièges, particulièrement, qui guettent les enfants de Dieu, et par conséquent, l'Église de Christ. Il y a l'esprit du monde, c'est-à-dire qu'on veut se fondre dans la masse des non-croyants en se disant, bah, tout compte fait, on peut avoir des convictions intérieures, mais voilà, on essaye de ne pas trop déranger, de trouver un consensus. Et puis, il y a l'esprit religieux. Et même si à la base, ces deux esprits sont différents, je pense qu'ils ont plusieurs points communs. Tout d'abord, c'est qu'ils s'installent sournoisement et prennent le temps de s'installer tranquillement. Quand on rencontre le Seigneur, qu'on fait une conversion, la vie est transformée, on découvre le salut en Jésus-Christ, et on ne se trouve pas du jour au lendemain en disant « Oh tiens, moi je suis un chrétien plutôt mondain, ou je suis un chrétien plutôt religieux ». Non, parce qu'il y a un tel feu qui brûle dans le cœur qu'on s'attache à Jésus, on s'attache à la parole. Et puis peut-être au fil des mois, des années, cet esprit religieux peut s'installer tranquillement. Que ce soit l'esprit mondain ou l'esprit religieux, on ne s'en rend pas compte lorsqu'on est concerné. En général, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour nous. Enfin, moi, je sais que, je le dis en toute transparence, quand le nombre de fois où j'ai lu des passages des évangiles où il est question des scribes et des pharisiens, bah, moi, je ne suis pas un scribe, je ne suis pas un pharisien. Donc, ok, je lis, ce sont des récits historiques, mais en quoi je suis concerné? Bah, je pense qu'effectivement, quand on est pris dans un esprit religion ne sont pas forcément concernés, on ne s'en rend même pas forcément compte. Et puis l'esprit du monde comme l'esprit religieux ont ce point commun qu'ils nous éloignent de Dieu finalement. Et ça finit par rompre la communion que nous avions avec lui. Parce que on finit par s'attacher plus à l'un qu'à l'autre et le bon ordre est inversé et cette communion que nous avions initialement avec Dieu finit par prendre de la distance, par s'estomper, voire par se rompre. Je suis surpris, je ne sais pas si vous êtes fait déjà cette remarque, quand on parle de l'Évangile à une personne qu'on appelle non-croyant, inconverti, et qui assez souvent, rapidement, disent « oui, mais moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis musulman », c'est-à-dire qu'on parle de la foi, et tout de suite la personne nous ramène à une sorte d'étiquette, et je ne sais pas si vous avez fait ce constat, mais je trouve que c'est assez souvent que ces choses-là arrivent. Et je le dis souvent, la foi n'est pas une question de religion, mais c'est une question de relation personnelle avec Dieu. Et je me dis même que la religion évangélique n'est pas meilleure que les autres. Parce que la religion ne peut rien changer dans un cœur. On entend parfois des gens qui disent « ah, moi j'aime bien venir dans votre église parce que c'est plus vivant, c'est plus dynamique, c'est plus sincère, on sent qu'il y a quelque chose, il y a la vie. » Oui, bien sûr, c'est plus. Mais aucune religion ne peut changer profondément une vie. Si vous êtes, je m'adresse là à ce moment à ceux peut-être qui sont en recherche, qui disent, voilà, mais alors il y a l'hindouisme, il y a l'islam, il y a le catholicisme, il y a les évangéliques, il y en a, et puis moi je suis un peu paumé là-dedans, je vous dis simplement que si vous cherchez une religion, vous ne comblerez pas le vide qui est dans votre vie. Si vous cherchez une religion, ce n'est pas ça qui pourra transformer votre vie, parce que celui qui peut transformer la vie, c'est Jésus-Christ. Et Dieu, d'ailleurs, ne nous demande pas d'amener les gens à changer de religion, heureusement. C'est ce qu'on appelle faire des prosélytes. On voudrait les gagner à notre cause. Mais Dieu nous appelle à les amener à celui qui transforme les cœurs, à Jésus-Christ. Et parfois, on entend même des témoignages voilà, de chrétiens pleins de zèle qui veulent témoigner. Et leur témoignage, parfois, se résume « Ah, mais je vais à l'église, je vais à une église évangélique, viens, je t'invite à l'église. » Attention, ce n'est pas un jugement, je le dis avec beaucoup d'amour, mais je pense que venir à l'église, c'est la conséquence d'une rencontre qu'on doit faire avec Jésus. Ce n'est pas de venir à l'église que ça va régler nos problèmes. Et je pense qu'on devrait plutôt proclamer « Ma vie a été transformée, bouleversée parce que j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai fait une rencontre personnelle et je t'invite à faire cette même rencontre qui peut transformer ta vie. » Ça, c'est le témoignage de ce qu'on a vécu et c'est ce qui va permettre d'amener les vies à Christ. Et Jésus, dans les évangiles, je parlais des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi, Jésus a tenu des propos très durs envers les religieux de son temps, les scribes, les pharisiens. Alors, de manière très très simple, hein, les scribes, qu'on appelait aussi les docteurs de la loi, ou dans d'autres versions, les interprètes de la loi, c'était des hommes instruits, des gens qui maîtrisaient l'écriture notamment, et dont le rôle principal était d'enseigner justement les commandements et les lois que Dieu avait données à Moïse et au peuple d'Israël. Et quand on regarde même dans l'Ancien Testament, on trouve notamment Esdras, dont il est dit qu'il était scribe. Et il nous est dit au chapitre 7, verset 6 d'Esdras, qu'il était versé dans la loi de Moïse et que la main de l'Éternel était sur lui. Et puis un peu plus loin, au verset 11, toujours à propos d'Esdras, il enseignait les commandements et les lois de l'Éternel. Le scribe, donc, avait un rôle. Alors, je le fais court, hein, parce qu'au travers des siècles, ce sont des fonctions qui ont évolué, mais à la base, il avait un rôle d'enseignement, c'est-à-dire qu'il était versé dans les Écritures, dans les textes, et puis il enseignait aux gens du peuple, qui étaient peut-être un peu moins instruits, qui n'avaient pas possibilité d'accéder au parchemin, à la parole, et donc les scribes enseignaient au peuple comment mettre en pratique la loi de Dieu. Et donc c'était une fonction qui était hautement reconnue, et leur appellation d'ailleurs, qu'on retrouve dans les évangiles, on les appelait rabbi ou rabouni, c'est-à-dire mon maître. C'est-à-dire qu'il y avait un tel respect pour cette fonction, il y avait une reconnaissance de une sorte de statut, on va dire, parce qu'ils avaient une certaine maîtrise de la loi. Ça, c'était dans leur fonction primaire. Les pharisiens, eux, c'était une sorte de, on va dire, de parti religieux, dont d'ailleurs bon nombre des scribes dans les évangiles faisaient partie. C'était pour ça que souvent scribes et pharisiens sont associés. Un scribe n'était pas forcément pharisien, mais parmi les pharisiens, on trouvait beaucoup de scribes. Historiquement, d'ailleurs, ils semblent avoir une origine assez proche des scribes, et on les retrouve là encore dans Esdras et dans Némi, au retour d'exil du peuple d'Israël à Babylone, plusieurs hommes ont eu à cœur de s'opposer fortement à toute dérive, tout ce qui était étranger au commandement et à la loi de Moïse, qui avait d'ailleurs entraîné l'exil à Babylone. Le peuple d'Israël, qui avait complètement abandonné les voies de Dieu, était parti en exil, et quand ils sont rentrés d'exil après 70 ans, des hommes se sont levés en disant « Nous, on veut être un peu comme des garants, s'assurer que le peuple ne va pas retourner vers ses dieux païens. » Donc c'était à la base le rôle aussi des pharisiens. Mais au fil des siècles, le pharisaïsme est devenu une sorte de parti d'opposition face aux influences extérieures au judaïsme, et leur préoccupation principale était censée être la soumission absolue à la loi de Dieu. Donc il y avait un attachement à la base, à la parole. Mais dans leur zèle, les pharisiens ne se contentent pas d'interpréter la loi avec exactitude, mais ils y ajoutent l'interprétation que leurs ancêtres leur ont donnée de l'Ancien Testament et qui devient cette interprétation qui devient elle-même force de loi pour eux-mêmes. C'était une tradition orale, c'était la tradition des anciens, transmise par voie orale de génération en génération. Donc à partir d'un attachement à la parole, de par la tradition orale, ils ont ajouté des choses qui n'étaient plus de la loi de Dieu. Et finalement, au temps de Jésus, les pharisiens finissent par imposer au peuple beaucoup de lois provenant de la tradition, mais qui ne sont pas écrites dans la loi de Moïse. Alors, je ne vais pas m'étendre plus sur les scribes, sur les pharisiens, je ne suis pas là pour faire un cours d'histoire, je n'en ai pas les capacités, loin de là. Mais alors, pourquoi Dieu nous parle-t-il des scribes et des pharisiens dans sa parole? En quoi sommes-nous concernés? Bien, je pense tout d'abord que si les évangiles en parlent autant, c'est que nous avons certainement des enseignements à en tirer. Paul écrivait à Timothée, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc s'il y a autant de textes dans les évangiles qui nous parlent des scribes et des pharisiens, ce n'est pas pour qu'on passe à côté et qu'on dise « ça, ça ne me concerne pas », parce que toute l'Écriture est inspirée, elle est utile pour nous convaincre et pour nous conduire. Et puis la deuxième raison pour laquelle nous sommes concernés, c'est qu'à la base, on voit que l'intention des scribes et des pharisiens était bonne. À la base, elle était bonne. Je pense que c'était de véritables hommes de Dieu attachés à la parole, attachés à la loi de Moïse. Ils ont mené un rôle et joué un rôle important en préservant le peuple d'Israël du danger que représentaient les dieux étrangers. Malheureusement, ils ont ensuite dévié de leur trajectoire, emportés par l'orgueil et par la suffisance. Et je pense que si nous ne veillons pas sur nos vies, sur nos sentiments, on peut progressivement tomber dans le légalisme. C'est-à-dire qu'on pense être attaché à la parole, même peut-être plus que les autres, peut-être la connaître plus que les autres, mais on oublie, comme l'écrivait Paul aux Corinthiens, que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La traduction de ce verset dans la parole vivante, la version parole vivante, dit « Hors cette alliance, il est question de la nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ. Cette alliance n'est plus basée sur le code de loi écrite, mais sur l'esprit, l'esprit avec un E majuscule, l'esprit de Dieu, car la loi avec ses commandements écrits mène à la mort. L'esprit de Dieu, par contre, communique la vie. » Et je pense que si on ne veille pas, on peut s'attacher, c'est bien, il ne faut surtout pas s'en priver, de s'attacher à la parole de Dieu. Mais ça peut nous amener dans quelque chose qui devient de la théorie, qui devient de la connaissance. Paul écrivait aussi que La connaissance enfle, mais la charité édifie. Donc si je m'attache, comme les pharisiens, à la base, à la parole, c'est bien, mais je dois aussi m'attacher à l'esprit de vie. Elle doit être vivante en moi. Et Jésus fera beaucoup de reproches aux scribes et aux pharisiens parce qu'ils sont tombés dans l'hypocrisie, ils sont tombés dans la dureté et dans le mépris. Je vous propose une première lecture dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu au chapitre 23. On n'ira pas tout le chapitre, je vous propose de lire du verset 1er au verset 12, Matthieu chapitre 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. » Les phylactères, c'était des petits étuis avec des morceaux de parchemin qui comprenaient la loi de Moïse, justement. Donc, ils en mettaient sur les Juifs, en mettaient sur le bras, en mettaient sur le front. Mais eux, les pharisiens, ils en mettaient des plus, c'était les monsieur plus de l'époque, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on les voie, donc ils avaient des phylactères qui étaient plus grands que les autres, ils avaient, on le voit aussi, ils ont de longues franges à leurs vêtements parce qu'il fallait qu'on les remarque plus que les autres. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « rabbi, rabbi ». Ah, ça les flattait. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Il n'est pas question ici de ne pas appeler son papa dans la chair, de ne pas l'appeler père. Hein. Il est question d'un père spirituel. Quand on voit toutes les philosophies où on pourrait s'attacher à une pensée philosophique avec que ce soit des philosophes ou des maîtres pensants, et c'est dans cet esprit-là qu'ici le Seigneur dit « N'appelez personne sur terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Au verset 3, Jésus dit « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. » Donc, il y avait quelque chose, un fondement qui était vrai sur la parole, sur la loi, sur les commandements. « Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Et on peut être au clair sur la parole de Dieu, on peut être au clair sur ce que Dieu attend de nous. On peut même en connaître des passages entiers par cœur, on peut les proclamer. Mais qu'en est-il de la mise en pratique ? Qu'en est-il de la mise en pratique ? Les pharisiens faisaient tout pour être remarqués des hommes, pour recevoir les honneurs, mais les gens n'étaient pas dupes et leur comportement était en complet décalage avec ce qu'ils proclamaient. Et puis ensuite, du verset 13 au verset 36 du même chapitre, Jésus va dresser publiquement un réquisitoire absolument accablant, où à 8 reprises, il dira « Malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous », et mettant à nu la saleté de leur cœur et de leurs pratiques condamnables sous leur air de sainteté. J'imagine comment ils devaient se pavaner dans les rues. Et là, on imagine, enfin je ne sais pas si on peut l'imaginer, parce que dans ce texte-là, Jésus est en train de les confondre publiquement. Il s'adresse à la foule, il s'adresse aux disciples, et puis il y a les scribes et les pharisiens qui sont là. Et là, Jésus est en train de dire, vous, là, les scribes et les pharisiens, regardez ce que vous êtes. Et là, il dévoile le secret de leur cœur. Vous ressemblez, il leur dira un moment, à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Et je me dis, si Jésus venait publiquement, à dire « Mais Daniel, tu dis ça, mais ton cœur. » Et si Jésus faisait passer sur l'écran derrière le film de nos vies intérieures, qu'est-ce qu'il en serait? Qu'est-ce qu'il en serait? Je pense que nous devons veiller à ce que cet esprit religieux ne gagne pas nos vies entre ce que nous pouvons dire, ce que nous pouvons affirmer, ce que nous pouvons connaître de la parole, mais ce qui, dans notre comportement, est en total décalage. Je vous invite à lire un autre texte. Oh, encore un texte qui n'est pas pour nous, hein. Mais bon, on va le lire quand même, parce qu'on ne sait jamais tout compte fait. Je pense qu'il est peut-être quand même un peu pour nous. Dans l'évangile de Luc au chapitre 18, une parabole qu'on connaît bien aussi, qu'on a lu peut-être des dizaines de fois, en se disant, celle-ci, de toute façon, elle n'est pas pour moi. Moi, je trie les paraboles qui me parlent, et puis il y en a d'autres, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Luc, chapitre 18, verset 9. Jésus dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes. Rien que ça, déjà, ça doit nous amener à réfléchir, parce qu'on peut se persuader qu'on est juste. Donc le Seigneur, il dit, attends, je vais te calmer un petit peu, écoute ça. Là, il ne dit pas qu'il s'adresse aux scribes et pharisiens, mais je pense qu'il y en avait pour leur grade, puisqu'on va le lire juste derrière. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Publicain, c'était quelqu'un qui était reconnu pour avoir une mauvaise vie, c'était un non-croyant, c'est quelqu'un qui ne pratiquait pas la loi de Moïse. On pourrait dire une personne de mauvaise vie, certainement infréquentable. Et puis les deux montent au temple pour prier. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs. » On pourrait mettre des mois, vous savez, à chaque mois. Le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, il faut savoir que les pharisiens méprisaient les gens du peuple. Ils méprisaient les gens du peuple parce qu'eux avaient le savoir, avaient la connaissance, et donc les autres étaient des moins que rien. Alors, à plus forte raison, un publicain, je ne vous explique même pas. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, dira Jésus, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. En clair, il y a une prière qui s'est arrêtée au plafond du temple, et puis il y a la prière du publicain qui a traversé le plafond et qui est montée jusqu'au trône de la grâce. Et il y en a un qui a été justifié alors que l'autre, sa belle prière, ses belles envolées, sont restées strictement sans effet. Et Dieu ajoute, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui abaisse sera élevé. On peut donner une image, on peut tromper les hommes, on peut se faire passer pour quelqu'un. C'était ce que faisaient les pharisiens, c'est ce que faisait cet homme dans cette parabole. C'est peut-être même ce que les uns et les autres parfois ont fait, mais on ne trompe pas Dieu. Les pharisiens qui étaient censés accomplir la loi auraient dû être proches de Jésus. Moi, je me suis posé cette question, puisque à la base, les pharisiens qui avaient cette connaissance et qui étudiaient la loi, et qui avaient à cœur de l'accomplir eux-mêmes et de l'enseigner, pourquoi ils ne se sont pas entendus avec Jésus? Puisque Jésus lui-même dira, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. » Donc il y avait des pharisiens qui étaient censés l'accomplir, Jésus qui était venu pour accomplir la loi, qu'est-ce qui manquait? Il y avait en apparence tous les ingrédients pour que Jésus et les pharisiens soient en parfaite communion. Mais leur cœur était tellement perverti que ça les opposait à l'esprit de vie qui était en Jésus. Et à de rares exceptions près, on a notamment l'histoire de Nicodème, qui était un pharisien qui est venu de nuit vers Jésus. Mais à quelques exceptions, la quasi-totalité des récits qui mentionnent les scribes et des pharisiens montrent et parlent à chaque fois de l'endurcissement de leur cœur. essayer de me trouver dans la parole une parole d'encouragement d'un pharisien, une parole d'encouragement. Trouvez-moi un passage où un pharisien est ému devant la souffrance physique ou morale d'une personne. Cherchez un verset où un pharisien se réjouit de la guérison d'un malade ou de la délivrance d'un possédé. On trouvera tous les reproches qu'ils ont fait à Jésus, notamment quand il guérissait les malades le jour du sabbat. Mais à aucun moment, on ne trouve un pharisien qui se réjouit de la guérison d'un malade. Et même quand Jésus guérira l'aveugle de naissance, leur cœur est tellement dur qu'ils ne croient même pas que la personne, ce pauvre aveugle, était malade. Donc ils ont fait venir ses parents pour attester qu'il était bien aveugle, parce qu'ils étaient tellement dans la contradiction et dans l'endurcissement que même ça, ils ne croyaient même pas le témoignage de cet homme qui disait « J'étais aveugle de naissance et Jésus m'a guéri ». Il y avait un endurcissement, un aveuglement terrible. Alors bien sûr, j'espère de tout mon cœur qu'aucun de nous n'est endurci au stade des pharisiens. Mais quel est l'état de notre cœur? Quel regard portons-nous sur nos frères et sœurs en Christ? Passe-t-on plus de temps à les critiquer, à relever leurs manquements, leurs faiblesses, ou passe-t-on plus de temps à les bénir et à prier pour eux? Quel est notre niveau de compassion pour celles, pour ceux qui passent par l'épreuve? Oh, c'est facile de dire, non, mais t'inquiète pas, ça va aller, le Seigneur va te fortifier, tiens bon, c'est qu'une épreuve, c'est passager, ça va te former, on sait à peu près tout se faire. Mais est-on capable, dans le secret, est-ce que je suis capable, moi, dans le secret, de me tenir devant le trône de Dieu? Oh, pas sur la place publique, comme les pharisiens, dans le secret de ma chambre, de me tenir sur mes genoux et pour intercéder en la faveur du frère, de la sœur qui passe par l'épreuve, jusqu'à ce qu'il en trouve l'issue. Est-on encore capable, comme l'écrivait l'apôtre Paul aux Romains, de pleurer avec ceux qui pleurent? Oh, pas pleurer par sentimentalisme, comme on pleurait devant un film romantique. Non, parce que ça, je crois que les sentiments, on peut tous se laisser toucher, mais est-ce qu'on est capable de pleurer parce qu'on a une profonde compassion, comme si nous étions nous-mêmes atteints? Quelle est notre attitude lorsqu'un frère, lorsqu'une sœur découragée finit par abandonner la foi? Moi, parfois, j'ai été repris. Parce qu'au bout de plusieurs mois, voire peut-être années, on se dit, mais au fait, on ne le voit plus, lui. Tiens, tu as des nouvelles, là, du frère untel, la sœur? Mais on ne le voit plus. Ah ben non, il a abandonné la foi. Mais il s'est passé combien de temps? Parfois, on ne s'en rend même pas compte. Ça fait des mois qu'on ne le voit plus. On ne s'en est même pas soucié. Oh, puis on finit même parfois par dire, bon, je suis à peine surpris, hein. De toute façon, il n'était pas assez ceci, il était trop cela, et puis il contestait toujours. Et puis on finit par se trouver des bonnes excuses, même de se dire, tout compte fait, c'est pas de ma faute. Non, bien sûr, chacun est responsable de ses actes. Mais est-on capable de déchirer nos cœurs, sachant qu'il va aller tout droit en enfer? Est-on plus attaché à nos petites habitudes, à notre train-train bien installé? Ou avons-nous soif de nous laisser bousculer par le Saint-Esprit? Moi, je ne suis pas pour changer le bon ordre dans les réunions. Dire, alors, on va inverser ça, on va le mettre après ça, et ça n'a pas de sens. Changer pour changer, ça n'a pas de sens. Mais est-on prêt à ce que le Saint-Esprit, à un moment, bouscule et dise, ce matin, ça ne va pas se passer comme ça. Ce mardi soir, ça ne va pas se passer comme ça, parce que le Seigneur, parce que le Saint-Esprit veut souffler et bousculer les choses. Et je me suis moi-même interrogé sur ces choses-là. À un moment, c'est bien les petits groupes le mardi soir. Moi, j'aime bien aussi les petits groupes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est bien parce qu'il y a de la convivialité. Mais quand ça change sur la forme, est-ce qu'on commence à dire « Oh, moi, je préfère quand c'est différent, je préfère comme d'habitude, pourquoi ?» Est-ce qu'on est prêt à ce que, non pas les hommes, parce que ça n'a une fois de plus pas d'intérêt de dire « faut changer pour changer », ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on est prêt à dire, moi, je veux me laisser bousculer par le Seigneur. Je veux qu'il me sorte de mon train-train. Parce que tout ça, ce sont des signes aussi d'un esprit religieux qu'on peut avoir, et sur lequel, si on n'est pas prêt à se laisser bousculer, est-ce que on est attaché à notre chaise, à notre place? Alors moi, c'est troisième rang, deuxième chaise à gauche. Moi, c'est... Il y a des églises où c'est comme ça. Oh, pas ici, je pense pas. De toute façon, si vous voulez votre place, vous savez, il y a une chose qui est assez simple. Parce qu'à 10h15, à l'heure où la réunion commence, il y a encore beaucoup de chaises de libre. Donc si vous voulez une place et choisir votre place, je referme la parenthèse, mais vous m'aurez compris, à 10h15, il y a encore beaucoup de places de disponibles. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous interpeller. Quel est notre entrain à venir dans la maison de Dieu? Est-ce que je vais à mon culte du dimanche matin? Je me prépare. Et là encore, vous me connaissez, je le dis avec beaucoup d'amour et pas avec un esprit de jugement. Parce qu'on peut avoir des problèmes d'un petit à la dernière minute, on peut même avoir une panne de réveil, on ne fait pas exprès, ben oui, ça peut arriver. Donc je le dis vraiment avec un cœur rempli d'amour. Mais quand régulièrement, je prends l'habitude de dire, de toute façon, 10h15, je sais, ils ne vont pas commencer puisqu'ils vont démarrer à 10h20. Donc déjà, j'ai gratté 5 minutes. Et puis après, c'est le président qui va faire l'introduction parce que comme tout est bien réglé, donc on sait de toute façon que ça va être d'abord la présidence, donc on va lire un texte, il va prier, après ça va être la louange. Bon, si j'arrive à 30-35, je ne vais pas avoir loupé grand-chose, mais on ne le dit peut-être pas comme ça, mais soyons honnêtes. Si je vous disais... Dimanche prochain, à 10h, devant la porte, le service d'accueil distribue des billets de 500 euros. Non, mais on peut en rire. On peut en rire. Mais soyons honnêtes. Je dis dimanche prochain, il y a distribution de billets de 500 euros. Quantité limitée, les premiers arrivés sont les premiers servis. On peut en rire comme ça, mais je pense que spirituellement, nous devons nous tenir devant Dieu et dire « Où est-ce que j'en suis ? Où est-ce que j'en suis ?» Attachons-nous plus d'importance à ce que les autres vont penser de nous ou à ce que Dieu va penser de nous ? Paul écrira à Timothée concernant l'attitude des hommes dans les derniers temps. Il dira « Ayant l'apparence de la piété ». Ah oui, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et là aussi, la version parole vivante nous dit, certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion, l'apparence de la piété, attachés aux traditions extérieures de la religion. Et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. C'est pas que ils se tiendront humblement devant Dieu en disant « Seigneur, tu vois les combats que j'ai dans mon cœur, tu vois ces choses qui sont encore là, ces mauvaises pensées, tu vois ces résistances, je t'abandonne tout ça ». Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de personnes qui sont attachées aux traditions extérieures de la religion. Et je pourrais rajouter, ce n'est pas dans la Bible, mais moi je rajoute, aux traditions extérieures de la religion évangélique, ils garderont l'apparence de la piété, donc il y a bien une volonté de garder une apparence, mais ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront aucune influence sur leur vie, aussi leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Décalage total, comme les pharisiens qui vivaient cette apparence et qui, au-dedans, étaient comme des sépulcres. Paul écrit aussi aux Colossiens, chapitre 3, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Jésus ne veut pas des disciples superficiels, il ne veut pas des disciples de façade, il ne veut pas que nous soyons trouvés légers. Moi, ce mot « entrailles de miséricorde » m'a souvent interpellé. c'est quelque chose qui est viscéral, qui est dans le ventre. C'est pas du sentimentalisme, c'est pas de la façade, c'est pas une tape dans le dos. C'est quelque chose qui est en nous, qui est profondément ancré en nous. Et je pense que nous devons étudier nos vies, passer nos vies au crible de la parole. Je vais inviter Dominique, si tu veux bien venir, s'il te plaît. Je pense qu'on peut, on peut s'incliner dans un moment de recueillement. Et en préparant ce message, je pense que le Seigneur mettait vraiment sur mon cœur un grand besoin de repentance. Un grand besoin de repentance individuelle, mais je pense un besoin de repentance collective. Je pense qu'il y a une responsabilité collective, c'est la notion du corps de Christ. Et on peut dire, oui, moi je suis pas concerné, moi le Seigneur connaît mon cœur. Mais peut-on faire partie du corps de Christ et ne pas se sentir concerné lorsqu'un membre est infecté? Ne pas se sentir concerné, c'est déjà un peu être comme ces pharisiens qui se positionnaient au-dessus des autres. On a des hommes de Dieu, particulièrement dans l'Ancien Testament, je notais Daniel, le prophète Daniel, dans le chapitre 9, qui disait ceci: « J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. » Seigneur de Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, nous avons péché. Nous avons péché. Pourtant, Daniel était un homme de Dieu, fidèle, fidèle à la parole. Et il dit, nous avons péché. Nous avons agi en homme perverti. Mais il n'était pas perverti, lui. Pourquoi il dit nous? Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte. Comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël, pour ceux qui sont près, ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte. Pourtant, Daniel, je vous assure qu'il n'avait pas à rougir de honte quand on voit comment sa vie était remplie de Dieu. Et pourtant, il dira, oui, nous ne pouvons que rougir de honte. Tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Daniel était un véritable homme de Dieu, il était resté ferme, mais il faisait corps avec le peuple et il s'associait aux besoins de repentance. On a le cas d'Esdras. À mes côtés, se sont rassemblés tous ceux qui tremblaient devant les paroles prononcées par le Dieu d'Israël contre l'infidélité des exilés. Esdras dit ceci: « Pour ma part, je suis resté assis, accablé jusqu'à l'offrande du soir, puis au moment de l'offrande du soir, j'ai abandonné mon attitude d'humiliation tout en regardant mes vêtements et mon manteau déchiré. Je suis tombé à genoux, j'ai tendu les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et j'ai dit, mon Dieu, je suis dans la confusion. J'ai honte, mon Dieu, de lever le visage vers toi. Car nos fautes, il n'a pas dit les fautes des autres, car nos fautes sont nombreuses au point de nous submerger de notre culpabilité. Et notre culpabilité est si grande qu'elle atteint le ciel. Depuis l'époque de nos ancêtres et jusqu'à aujourd'hui, nous avons été grandement coupables. Et c'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois, nos prêtres, à la domination des rois étrangers, à l'épée, à la déportation, au pillage, à une honte pareille à celle qui couvre aujourd'hui notre visage. Je crois que le Seigneur ce matin veut souffler un esprit de repentance dans les cœurs. Je le souhaite vraiment de tout mon cœur, dans ma propre vie, dans mon propre cœur. dans ton cœur, mon frère, dans ton cœur, ma sœur, un vent de repentance pour les cœurs qui se sont endurcis, pour l'esprit religieux qui s'est installé dans ma vie. Que nous puissions vraiment avoir ce temps dans la présence du Seigneur. Considérons nos vies. Considérons nos vies. Alléluia, Seigneur.